Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Crise sanitaire, crise écologique, crise économique, au moins de l'endettement. À propos de toutes ces crises, le pape François, avec son art consommé de la formule, a une expression pour résumer la situation : c'est notre moment de Noé. Une expression forte qui dit l'ampleur du changement que nous avons à opérer si nous voulons retrouver l'alliance avec Dieu. Pour nous y aider à y voir un peu plus clair, la faculté de théologie de l'Institut catholique de Toulouse propose cette année, à l'occasion de ses conférences bibliques, de nous plonger dans l'écriture pour y trouver la sagesse qui semble tant nous faire défaut. Premier exemple ce matin avec Saint Joseph, non pas le patriarche de l'Ancien Testament, mais le gardien du Rédempteur. La Bible pour sortir de la crise première, c'est donc notre émission de ce matin, en ce dernier lundi d'octobre. C'est une habitude qu'on va prendre, c'est les derniers reliquats de la rentrée. Avec vous, pour commencer, Dominique Joseph, vous êtes religieux de la famille Saint-Joseph, vous êtes prêtre et professeur d'écriture sainte à l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Merci de venir et de faire un détour par nos studios. On fait donc par la même occasion de la publicité pour les conférences bibliques de la faculté de théologie de l'Institut catholique de Toulouse. Ces conférences bibliques, c'est une tradition. C'est un mardi par mois ou presque au long de cette année, avec comme thème cette année « Crise salutaire ?» point d'interrogation, avec ce sous-titre « Sortir grandi d'une traversée à risque ». Alors je le dis aux auditeurs, pour ceux qui seront peut-être un peu surpris, ces émissions sont diffusées, on va dire, en décalé, puisque cette conférence, vous l'avez déjà donnée il y a quelque temps de cela. Et le titre de cette conférence, pour vous, donc, c'est « Les crises dans la vie de Saint-Joseph ». Alors on va prendre le temps de découvrir, de redécouvrir avec vous cette figure. Pour ceux qui sont des grands fidèles de l'émission, on avait fait deux émissions avec vous sur Patrice Cordet, l'exhortation apostolique du pape François sur l'année Saint-Joseph. Combien de temps il nous reste
Plus beaucoup, il faut se dépêcher d'aimer Saint-Joseph. L'année jubilaire se termine le 8 décembre. Il y aura une grande cérémonie à Rome avec un colloque international. Mais je crois que Saint-Joseph sera toujours d'actualité parce que, après avoir pendant un an cheminé avec Saint-Joseph, on s'ouvre forcément au mystère de la Sainte Famille, et l'année de la Famille, elle, continue encore avec les grands rassemblements prévus à Rome au mois de juin prochain. Donc je crois que Saint-Joseph va peut-être terminer son année jubilaire, mais il va rester dans l'actualité.
Vous, à la famille Saint-Joseph, vous avez évidemment une dévotion particulière pour Saint-Joseph. Cette année, une année jubilaire, vous nous aviez dit lors des précédentes émissions qu'on avait fait sur Patrice Cordet que c'était la première fois dans l'histoire de l'Église qu'une année était consacrée à un saint, comme ça.
Absolument.
Vous avez vu, alors les fruits sont toujours des fruits souvent des fruits invisibles, mais je sais pas, il y en a beaucoup qui sont venus vous poser des questions sur Saint-Joseph, à essayer de rentrer en amitié avec lui, de comprendre qui il était.
Écoutez, oui, c'est une année qui est vraiment à l'image de Saint-Joseph, à vrai dire. Tout se passe dans le silence, dans la discrétion, et des grandes choses se font, de très grandes choses se font. Je peux vous dire, c'est un peu une confidence que je vous fais, mais les diocèses de France vont être invités à se consacrer à Saint-Joseph pour la messe du 8 décembre. Donc déjà, vous voyez, ces petites choses-là, on n'en parle pas, ça ne fait pas la une des journaux, mais ça fait son chemin. De plus en plus d'évêques s'inscrivent et il va y avoir un certain nombre de diocèses qui vont se consacrer à Saint-Joseph. Notre rêve, ça serait que toute la France, ce jour-là, se consacre à Saint-Joseph. On verra, il en manque toujours un ou deux à l'appel, mais on verra combien il y en a. Donc vous voyez, ce sont des choses qui font leur chemin. Et puis nous, puisque vous posez la question sur ma communauté, sur la famille de Saint-Joseph, je voudrais juste témoigner d'une expérience que nous avons eue cet été, qui était vraiment très très belle. On a fait une retraite jubilaire et l'enjeu, c'était de dire comment est-ce qu'on peut mieux connaître Saint-Joseph. Et il est comme tout le monde, on peut parler de lui, on peut faire des conférences, on peut écouter des savants nous expliquer. On a fait le pari de faire une retraite où on essayait de recréer l'ambiance de Nazareth, pas de recréer, mais de retrouver, de nous immerger dans l'esprit de Nazareth. Il y avait du travail manuel, il y avait du travail intellectuel, il y avait de la prière, il y avait des moments de fraternité, une vie familiale, la joie simple, partagée, un peu comme ça se vivait donc à Nazareth. Et ça a été une retraite absolument magnifique, au point qu'on nous a beaucoup demandé que ça se reproduise, et je crois que ça sera le cas.
Alors, Saint-Joseph, le pape François donc, nous a lancé dans cette année Saint-Joseph, à l'occasion donc, de la crise que l'on traverse. Il a cette expression, vous en avez peut-être relevé d'autres, hein, c'est notre moment de Noé. Saint-Joseph, c'est l'homme des crises, d'une certaine manière. Vous inaugurez les conférences bibliques. Il y a cette phrase, enfin, parmi toutes les phrases que j'ai pu noter du pape François, « Nous pouvons tous trouver en Saint-Joseph l'homme qui passe inaperçu, l'homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficulté. »
C'est une constante dans l'histoire de l'Église. On pourrait multiplier les exemples à loisir, je ne sais pas lequel donner en premier. Écoutez, regardons au tout début du XVe siècle, le concile de Constance. L'Église, comme beaucoup, a été dans un moment de crise noire. Vous savez, c'est le moment où il y avait trois papes, alors on ne manquait pas de papes à l'époque. Et on se disait, les évêques s'étaient rassemblés donc, au concile de Constance, et en disant, mais qui est-ce qu'on va élire pape? Bon, et alors c'est à ce moment-là que Gerson écrit une lettre.
Gerson qui était ?
Alors Gerson, qui est de Paris, Jean Charlier, qui était un dévot de Saint-Joseph, qui a beaucoup prêché sur le mariage de Saint-Joseph et contribué à la fête de Saint-Joseph, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il a écrit aux pères conciliaires en leur disant « Écoutez, l'homme que vous devez choisir pour être le prochain pape, celui qui va réunifier l'Église et représenter le Christ, doit ressembler à Saint Joseph. Cherchez celui qui ressemble à Saint Joseph et vous aurez votre pape. » Et c'est là qu'il fait un magnifique portrait de Saint Joseph en tant que figure pontificale. Il est l'époux de Marie, mais la Vierge ne lui appartient pas. Il est le père du Christ, mais il est son serviteur, etc., etc., tel qu'on l'a développé plus tard après dans la spiritualité française. Mais vous voyez, que ce soit même Léon XIII pour la proclamation de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle, comment est-ce qu'il commence sa lettre? En disant: l'Église traverse une crise comme elle n'en a jamais connue. 1870, évidemment, c'est une date qui résonne à nos mémoires, tristement. L'Église traverse une crise comme elle n'a jamais connue. Tournons-nous vers Saint-Joseph et on le déclare patron de l'Église. Vous voyez, c'est une constante dans l'histoire de l'Église. Quand on n'a plus de repères, quand on ne sait plus vers qui se tourner, on en appelle à Saint-Joseph.
Alors cette déclaration de Saint-Joseph comme patron de l'Église universelle, c'est donc pour rappel aussi ce qu'on fête au long de cette année jubilaire, puisque donc c'était il y a 150 ans. Le 1er mai dernier, d'ailleurs j'ai vu, dernière question d'introduction peut-être à propos du pape François, quoique on le réinvitera peut-être au long de cette émission un tout petit peu. Il y a beaucoup de litanies à Saint-Joseph, j'ai découvert qu'il y en avait, je ne sais plus combien il y en a, 25 titres, et il y en a 4 nouveaux qui ont été, on va dire, labellisés par l'Église, ça doit pas du tout être le nom utilisé en haut lieu: gardien du Rédempteur, ministre du Salut, soutien dans les moments de difficulté, patron des exilés, des affligés et des pauvres. Et puis les autres, vous devez les connaître. On n'a jamais fini de découvrir Saint-Joseph, j'ai envie de dire.
Oui, tout à fait. Je suis très heureux de ces ajouts. Bon, pour ce qui est du secours dans la difficulté, on vient d'en parler. Les deux premiers sont...
J'ai même oublié serviteur du Christ, pardon.
Ah oui.
Serviteur du gardien du Rédempteur, serviteur du Christ, ministre du Salut.
Ça serait le comble, effectivement, de ne pas parler de lui comme serviteur. Mais gardien du Rédempteur, c'est le titre de la lettre apostolique de Saint Jean-Paul II. Et dans cette lettre apostolique, il présente, et c'est là une très grande innovation théologique, dont on n'a pas fini de tirer les fruits. Il y a vraiment un chantier, j'invite les universitaires à approfondir. Ministre du Salut, c'est cette audace de Jean-Paul II qui introduit cette nouvelle manière de parler de Saint Joseph. C'est quelque chose de très très fort, parce que ça le met, dans une place quasiment équivalente à celle de la Vierge Marie, au service de l'incarnation rédemptrice. Donc là, il y a vraiment une très très grande audace théologique de dire de Saint Joseph qu'il est ministre du salut, c'est-à-dire que l'incarnation rédemptrice le concerne pleinement en tant que collaborateur. Donc là, il y a vraiment beaucoup de choses à réfléchir, à conceptualiser dans le travail théologique. Donc ça, je suis très heureux de cet ajout, évidemment.
Alors si vous deviez, comme vous l'aviez fait lors des précédentes émissions où vous nous aviez accompagnés pour nous faire découvrir à l'occasion de cette année jubilaire la figure de Saint-Joseph, je me souviens que vous aviez quand même un petit peu recadré les choses, ou on va dire taillé en pièces certaines images ou certains poncifs à propos de Saint-Joseph. On va partir du principe que tout le monde n'a pas entendu ces émissions, et puis surtout qu'il y a peut-être nombre d'auditeurs qui ont du mal à rentrer dans une dévotion à Saint-Joseph ou une relation vivante. La communion des saints, c'est quand même, on va dire, une sacrée aventure. Hein. Saint-Joseph, je me souviens, vous nous aviez dit « Ah non, c'est pas possible, il peut pas être vieux. » C'était forcément Marie, et vous aviez une expression très belle. Dieu n'aurait pas pu vouloir pour, va dire, le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre qui est Marie, un homme qui ne la comprenne pas.
Bien sûr, quel père voudrait marier sa fille chérie à un espèce de vieux rabougri édenté et gâteux? Enfin, ça n'existe pas.
Et veuf.
Et veuf, enfin tout ça. Vous voyez, il y a un très très grand danger dans la dévotion à Saint-Joseph, mais je crois que ça commence à passer, en tout cas à certains aspects. C'est tout le mal qu'ont fait les évangiles apocryphes. Parce que toutes ces légendes-là, elles viennent des apocryphes. C'est les apocryphes qui nous ont présenté Joseph vieux, Joseph jeune, Joseph veuf, ayant eu des enfants d'un précédent lit, etc., etc. Mais ce n'est pas l'évangile.
Donc les évangiles apocryphes, c'est des évangiles écrits, on va dire, plus tard, et puis que les synoptiques, et puis surtout pas reconnus par l'Église.
Voilà, pas tous plus tard, mais c'est surtout qu'ils n'ont pas été introduits dans le canon, ils n'ont pas été reconnus comme étant inspirés. Donc ils font pas partie de l'Écriture sainte. Donc ils ont leur valeur, notamment pour les historiens, il ne s'agit pas de rejeter leur témoignage en tant que pièce au dossier historique, mais quand même ils ne sont pas inspirés comme le sont les évangiles. Alors pourquoi est-ce qu'on ne lit pas les évangiles? Cependant, je suis quand même content, au-delà des entretiens que nous avons pu avoir, parce que vous êtes un fin lecteur, mais une des choses qui m'agaçait, que je n'ai jamais trouvé ici, c'est que la première question qu'on me posait, c'était toujours quel âge a Saint-Joseph, hein, c'est le grand souci. Mais je me rends compte, au long de cette année jubilaire, que partout, il y a des tas d'initiatives, notamment artistiques, des statues, des peintures, des vitraux qui sont faites pour des pèlerinages, pour des églises consacrées à Saint-Joseph, pour des diocèses, etc. Il y a beaucoup de belles choses qui se sont faites cette année. À chaque fois, Saint-Joseph était jeune, avec tous ses cheveux, hein, plus de problèmes de calvitie. Donc je crois vraiment que les idées commencent à évoluer et qu'on se rend compte que le bon Dieu, il veut le bonheur de ses enfants, et il n'instrumentalise pas ses enfants, il veut que Marie soit heureuse avec un mari qui lui soit assorti, qui la comprenne, un époux qui lui corresponde, mais il veut aussi que Joseph soit heureux. Joseph est aussi le fils du bon Dieu, et donc il lui veut pour lui une épouse qui lui corresponde.
Alors justement, je voulais vous arrêtiez aussi sur une expression qui est tirée cette fois des évangiles, « fils de Joseph ». Voilà, c'est donc...
Ah, ça c'est une expression...
Parce que souvent, on se dit qu'il est, on va dire, il est derrière, il est discret, on a en tête Jésus, fils de Marie, mais il est quand même dit par deux fois, selon vous, même trois, c'est ça, hein,
oui, dans l'évangile de Luc. Oui, même plus que ça. Il est appelé fils de Joseph, Jésus est appelé fils de Joseph dans tous les évangiles, même dans Saint Jean, et c'est une expression qui est très importante. Ne croyons pas que c'est anecdotique. Il est appelé fils de Marie aussi, on pourrait voir pourquoi, mais fils de Joseph, c'est quelque chose qui revient de très 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 loin dans la Bible, et c'est un titre messianique, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que pour nous, le Messie, c'est fils de David, et c'est pour ça, dit-on couramment, et c'est tout à fait juste de le dire, c'est tout à fait vrai, c'est pour ça que Joseph devait être le père de Jésus, pour pouvoir l'introduire juridiquement dans la lignée davidique, et donc qu'il puisse porter ce titre messianique de fils de David. Et on voit par exemple Bartimée qui appelle « fils de David, fils de David ». Donc ça, c'est tout à fait légitime, et ça remonte au deuxième livre de Samuel, au chapitre 7. C'est un fil rouge très bien connu dans la Bible. Mais ça n'est pas le seul. Il y a d'autres figures messianiques. Je vous donne un seul exemple que vous connaissez très bien aussi. C'est dans le livre d'Isaïe, dans le Deutéro-Isaïe. Il y a cette figure du serviteur souffrant, une figure très mystérieuse qui ne cadre pas avec la figure du Messie, fils de David, qui est un Messie victorieux, un Messie guerrier. Isaïe présente quelqu'un qui a les aspects d'un esclave et qui souffre dans sa chair. Donc vous voyez que quand Jésus nous présente la figure qui accomplit les Écritures, nous présente le Messie qui accomplit les Écritures, il prend tous les fils rouges de la Bible. Et parmi ceux-là, il y en a un qui est négligé, mais qui est très fort et qui est très ancien, qui remonte à la Genèse, c'est le Messie, fils de Joseph. Alors on pourrait prendre le temps de dérouler notamment la bénédiction de Jacob, qui au moment de mourir bénit chacun de ses enfants, ce qui va donner après les 12 tribus, avec une bénédiction spéciale pour Joseph, et puis Moïse, qui à la fin du Deutéronome, bénit aussi les tribus qui vont entrer dans la Terre Sainte, avec de nouveau une figure, une bénédiction spéciale pour Joseph. Et dans cette bénédiction-là, il présente Joseph tout à la fois comme un taureau et comme un auroch. Or ça, c'est très important. On pourrait dire pour nous, ses voisins, vous savez ce que c'est les aurochs, hein, il y en a eu en Europe jusqu'au XVIIe siècle. C'était des taureaux sauvages, extrêmement puissants. César en parle dans la guerre des Gaules. Ils faisaient 3 mètres de haut, ils faisaient 2 mètres au garrot, ils avaient des cornes gigantesques. C'était des bêtes indomptables. Même quand on les prenait comme veaux, on n'arrivait pas à les domestiquer, d'une très grande force, et ils s'attaquaient à tous les animaux. C'était des animaux puissants, vainqueurs, bref. Et donc, dans la bénédiction de Moïse, à la fin du Deutéronome, on nous présente Joseph, à la fois, le fils de Joseph, à la fois comme le taureau, c'est-à-dire l'animal voué au sacrifice expiatoire dans le temple, et comme l'auroch, c'est-à-dire le taureau invaincu. Donc vous voyez que dans la piste de fils de Joseph, on décrit petit à petit un Messie qui sera mis à mort et qui sera victorieux. Bien sûr, on approche à tâtons, mais vous voyez que pour nous qui avons lu le Nouveau Testament, ça prend un relief particulier. Donc quand Jésus est appelé dans les évangiles « fils de Joseph », il faut voir qu'il accomplit aussi un titre messianique.
Alors dernière chose à propos de Joseph, on y reviendra enfin après en se plongeant dans l'Annonciation et dans la fuite en Égypte, puisque vous allez prendre ces deux passages, nous aider à rentrer plus profondément dedans, qui doit être connu quand même d'un certain nombre d'auditeurs, et puis à chaque fois nous aider à tirer, à voir quelles leçons de sagesse on peut en tirer pour aujourd'hui, pour le moment de crise, on va dire, à tiroir que l'on vit. Avant donc qu'on fasse une première pause et qu'on voit ces deux passages des Écritures, Joseph c'est aussi quelqu'un donc qui ne planait pas, j'ai envie de dire, qui avait un métier très concret, très sérieux, et souvent un métier qui était un métier pour des hommes sages, ou en tout cas qui rendait sages. Je me souviens aussi que vous aviez dit que chez les Juifs, on avait l'habitude de dire que quand on ne savait pas répondre à une question, il fallait aller demander à un charpentier.
Absolument. Les charpentiers font partie des notables dans la société de Juda de l'époque. On en a de nombreux témoignages. Je citerai simplement Jérémie 24. C'est le moment où on part en exil à Babylone, le temple est brûlé, la ville est ravagée et tous les notables sont déportés de manière à affaiblir. La population est déportée de manière à ce que Israël soit rayé de la carte, tout simplement. C'est une technique, disons, militaire. Bon. Eh bien, on fait la liste, Jérémie fait la liste de ceux qui partent en déportation. Il y a le roi, il y a sa cour, et dans sa cour, il y a les charpentiers. Donc on voit bien que quand on se représente un charpentier, c'est pas le brave gars du village avec sa boîte à clous. Le charpentier, c'est l'élite des corporations artisanales, et dans la corporation des charpentiers, on trouve tous les plus grands rabbins de l'histoire d'Israël. Donc dire de Joseph qu'il est charpentier, rien que ça, c'est nous dire que c'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est une référence sociale.
Entre guillemets, quel est le lien de cause à effet entre le fait d'être charpentier et d'être sage?
C'est une tradition, mais je crois aussi que...
Ça marche plutôt dans l'autre sens, c'est les sages qui deviennent charpentiers, c'est ça que vous voulez dire ou...
Non, parce que c'était d'abord des affaires familiales, mais je crois aussi que, je vais employer des mots tout à fait anachroniques, hein, mais peu importe, pensez à un ingénieur, vous voyez, le charpentier, c'est pas simplement le gars avec sa boîte à clous, c'est celui qui sait calculer, qui sait faire des plans, qui sait concevoir des outils, etc. Donc c'est un métier, si on prend par exemple, il y a toutes sortes de corporations, hein, parmi les rabbins, mais enfin, une des corporations, c'était les porteurs d'eau. Alors vous comprenez que la formation pour devenir porteur d'eau, c'était pas la même que pour celle pour devenir charpentier. Donc je crois qu'il y avait tout simplement une exigence intellectuelle qui fait qu'ils étaient versés dans des domaines où peu avaient les compétences nécessaires pour arriver à exceller.
Allez, on va faire une première pause, il y aurait plein de choses à dire, je sais que vous êtes intarissable sur le sujet et passionnant, mais on va avancer, on va se pencher sur l'Annonciation et voir quelles leçons de sagesse on peut tirer pour chacun d'entre nous.
Thank you. présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
La Bible pour sortir de la crise, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église en ce lundi matin avec comme invité pour ceux qui nous rejoindraient Dominique Joseph qui est religieux de la famille Saint-Joseph, et prêtre et professeur d'écriture sainte à l'Institut catholique de Toulouse. Cette émission donc, qui a lieu grâce aux séries de conférences bibliques qui sont données dans ce même institut tout au long de cette année sur un thème « Crise salutaire, point d'interrogation, sortir grandi d'une traversée à risque » et ce matin, les crises dans la vie de Saint-Joseph. Donc on choisit un premier passage de l'écriture, fort connu des croyants et des pratiquants. C'est donc dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 1 du verset 18 à 25. Joseph assume la paternité légale de Jésus, ce qu'on peut trouver dans la Bible de Jérusalem. Je pourrais citer certains passages où vous pouvez peut-être en faire de tête. Redites-nous les circonstances pour ceux qui par hasard ne connaîtraient pas, et surtout aidez-nous à rentrer dans ce passage. J'en citerai juste une. Joseph, son mari, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolu de la répudier sans bruit.
Vous mettez directement les pieds dans le plat, c'est le gros problème, et c'est la question du divorce de Marie et de Joseph, enfin plus exactement de la décision de Joseph de répudier sa femme. Alors là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Ce qu'on conçoit habituellement, c'est que Joseph est en train de tout casser, de tout ficher en l'air. En gros, Dieu, pendant des millénaires, a préparé le mystère de l'incarnation rédemptrice, et voilà qu'au dernier moment, il tombe sur le simplet de service qui, ne comprenant rien, va tout faire capoter en renvoyant la Vierge Marie. Alors, il dépêche un ange comme un pompier pour sauver la situation, qui lui dit mais non Joseph, tu es fou, n'aie pas peur, prends Marie chez toi, tu vas tout faire capoter. Bon, alors évidemment ce genre de questionnement, j'ai fait exprès de le dire avec beaucoup d'ironie, alors que ces questions se retrouvent même chez certains pères de l'Église, ces explications en tout cas, je crois qu'il nous faut revenir bien avant ça. Ce qui nous embête, et je crois que ça rejoint notre expérience personnelle, quand on traverse des crises, on va tout de suite chercher des réponses, on cherche tout de suite des solutions, des recettes qui vont nous sécuriser, qui vont nous dire « t'inquiète pas, tout est balisé, Dieu a tout prévu ». Mais c'est jamais le cas. Mais surtout, c'est pas comme ça que la question se pose. Et je crois que si on prend le temps de lire ces quelques versets lentement, on va se rendre compte que Joseph n'est pas du tout dans ce genre de problématique.
Alors déjà, juste pour préciser une chose, parce qu'on peut lire deux choses qui sont apparemment contradictoires, ça aussi vous avez probablement l'habitude de l'entendre, mais je remets les pieds dans le plat. Or, telle fut la jeunesse de Jésus Christ, Marie sa mère était fiancée à Joseph, et puis un peu plus loin, on lit Joseph son mari, qui était un homme juste. Donc à l'époque, quand on était juif et qu'on était fiancé, c'est qu'on était déjà marié ?
Oui, presque.
Tout comme ?
Oui, tout comme. Le mariage et les fiançailles n'étaient pas distingués comme nous avons l'habitude de le faire. Il y avait un contrat de mariage lors des fiançailles. C'était un mariage, en fait. Mais il y avait une étape qui, en général, durait une année. C'est-à-dire que les jeunes fiancés se mariaient par contrat, mais pendant un an, la fiancée demeurait dans la maison de son père. Donc il y avait une année qu'on appelait les fiançailles, qui était un mariage, c'est-à-dire il fallait un acte de répudiation pour y mettre fin, mais qui était aussi une sécurité, qui permettait de rompre le mariage pour des raisons graves qui auraient pu apparaître dans ce délai.
Alors, ceci étant posé, quel est dans le fond le... Ah non, continuons à décrire un petit peu la scène de ce passage. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour situer un petit peu la scène ?
Eh ben, c'est que Marie se trouve enceinte. Marie se trouve enceinte, et c'est ça le verset introductif, alors qu'elle est fiancée, c'est-à-dire alors qu'elle vit toujours dans la maison paternelle, c'est-à-dire qu'elle n'a, Joseph ne l'a pas prise chez lui, c'est-à-dire ils n'ont pas de vie commune. Bien. Donc, voir une fiancée enceinte alors qu'elle vit chez son père, je vais vous dire franchement, ça ne choque personne. La nature à l'époque était à peu près la même qu'aujourd'hui. Le désir très fort des jeunes époux était le même à l'époque qu'aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui se passait dans ce moment-là ? Les anciens du village disaient « hum, hum », ils convoquaient le jeune fiancé, ils lui disaient « écoute, la Marie est bien jolie, on voit qu'elle est enceinte, prends-la chez toi ». n'attend pas le délai légal. On avait quand même de la compassion pour certaines faiblesses et certains enthousiasmes, on va dire. Bon. Or, il se trouve que Joseph garde le silence. Il faut voir ce contexte. Joseph garde le silence. Marie est enceinte et les anciens attendent que Joseph assume sa paternité, vienne rendre compte devant le conseil et attendent la sanction qui, je vous le dis, se résume en général à dire « Allez, prends-la chez toi et puis on n'en parle plus. » Bien. Mais justement, puisque c'est si simple, pourquoi est-ce qu'il ne bouge pas ? Alors, saint Matthieu nous propose de voir la scène, non pas de ce côté un peu pittoresque du village, mais du côté théologique. Et il dit les choses d'une manière extrêmement précise. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils eussent mené la vie commune, elle se trouva enceinte par le fait du Saint-Esprit. Et donc la mention, la circonstance, la proposition circonstancielle, temporelle, est avant. Regardez bien la chronologie des événements, c'est ils sont fiancés.
Mais rien que vous n'ayez pas dit jusque-là, ou que vous n'ayez pas souligné, Marie était enceinte.
Justement, et c'est ce qui est important, c'est de voir comment c'est écrit. C'est pour ça que je vous dis, maintenant reprenons les mêmes événements, mais du point de vue de saint Matthieu, du point de vue de l'Écriture sainte. Il nous dit... avant qu'ils eussent mené la vie commune, c'est-à-dire qu'ils nous parlent de la vie commune, avant de nous parler de la conception par l'Esprit Saint. C'est quelque chose qui est chronologiquement est après. Je vais prendre un exemple tout à fait trivial, vous allez comprendre. Si vous dites dimanche dernier, j'ai pris le train, je suis allé voir, je ne sais pas quoi, le cirque Zavata. Je suis rentré le soir et j'ai pris le train, je suis rentré à la maison. Ce n'est pas comme ça que vous allez raconter les choses lundi matin à vos collègues. Vous allez dire, j'ai été voir le cirque Zavata, c'était merveilleux, et il m'a fallu une heure de train pour y aller, mais ça valait le coup. Vous racontez le train après avoir raconté l'essentiel, alors qu'il s'est produit avant. Vous voyez, dans notre manière de raconter, on présente les événements avec un projet particulier.
Alors qu'est-ce que ça dit là ?
Ici, votre projet, c'est l'enthousiasme. Et donc ici, ça nous montre que, avant qu'ils eussent mené la vie commune, la conception par l'Esprit Saint était connue, ils eussent connu, par les deux. Par les deux. Ce qui veut dire que Joseph est dans le secret. Et non seulement Joseph est dans le secret, mais saint Matthieu nous raconte l'histoire avec les yeux de saint Joseph. Et c'est ça qui est primordial. C'est que saint Joseph voit Marie enceinte et voit tout de suite de quoi il s'agit. Comment est-ce qu'il l'a su ? On n'en sait rien. Et ça aussi, c'est important. Il faut accepter ce qu'on appelle, avec un mot technique qui vous semblera trivial, un blanc. Il y a un blanc dans le récit. On ne sait pas si Marie a dit à Joseph ce qui s'est passé avec l'ange. On ne sait pas si Marie l'avait raconté à sa mère et qu'ensuite Anne a un peu mis Joseph au courant. On ne sait rien. On peut faire des tas d'hypothèses, mais au final, on ne sait rien. Et c'est important de ne rien savoir parce que ça nous montre que ce n'est pas là que l'Évangile veut attirer notre attention, pas sur les circonstances, mais de nous dire « Joseph savait ». Point. Et donc, ce point de la science de saint Joseph est primordial, parce qu'alors, il ne s'agit plus de se demander s'il s'interroge sur la fidélité de Marie. Or, quand on réfléchit à la répudiation, c'est toujours en faisant de Joseph un espèce d'acteur d'un théâtre de vaudeville.
Donc à vous lire, en fait, le fond de sa question, c'est de savoir si c'est... D'ailleurs, on l'entend parfois, hein, pour ceux qui sont un petit peu assidus à la pratique. Le fond de sa question, c'est de savoir s'il est juste, qu'il ait sa place.
Voilà. Il ne s'interroge pas sur la fidélité au contrat conjugal de la Vierge Marie, mais il se dit, puisque Marie est la mère du Messie, qu'est-ce que je viens fiche dans cette histoire ? Voilà la question qu'il se pose.
Alors vous dites aussi, pardon, une très belle chose dans la conférence que vous avez eue, la sympathie de me faire suivre, c'est que dans ce silence, on peut entendre aussi la confiance de Marie.
Et oui, parce que Marie dépend de Joseph, et c'est ça qui est très très beau dans la vie spirituelle. Il y a toujours ce mélange auquel on a du mal à s'habituer parce qu'on voudrait être sécurisé tout le temps. Mais au moment où Dieu donne tout à Marie, il faut se rendre compte, elle est la mère du Messie. Le Messie, c'est le Verbe incarné, c'est la deuxième personne de la Trinité, c'est Dieu. Donc elle a tout quand elle a Dieu. Eh bien, au moment où Marie reçoit tout de Dieu, elle dépend entièrement de Joseph.
Parce que qu'est-ce qui se passait pour elle si...
Ah, imaginez que Joseph, alors pour le coup...
Elle restait à la maison, c'est ça
ou... ben, Joseph lui dise « rentre chez ton père, je ne veux plus entendre parler de toi », ou que Joseph dise, bien sûr, c'est, il n'aurait jamais dit ça, mais « elle a été voir le facteur, et donc je casse le mariage », il aurait pu faire... Elle dépend littéralement, son avenir dépend littéralement de Saint-Joseph. Et d'ailleurs, je vais vous dire, si vous aimez les ragots, il y en a plein dans l'Évangile.
Oh non,
vous
avez pas spécialement, rassurez-vous.
Non, je sais bien, je vous taquine. Dans Saint-Jean, au chapitre 8, vous savez, il y a cette discussion, peut-être je rentre trop dans les détails, hein, mais il y a cette discussion où les Juifs attaquent Jésus, c'est peu avant de décider de sa mise à mort, et ils sont dans le péristyle du théâtre, ils disent notre père, du temple, et qui disent, notre père c'est Abraham. Et Jésus leur répond, mais si votre père était Abraham, vous m'aimeriez, vous sauriez que je suis le Messie. Vous ne voudriez pas me mettre à mort. Hein? Et donc, votre père, ce n'est pas Abraham, c'est Satan. Et ils lui répondent, mais nous ne sommes pas des fils de la prostitution. Et donc, il faut entendre là qu'il y a un courant parmi les contemporains de Jésus qui n'ont pas gobé l'histoire de Joseph et qui disent... Le petit avait les moustaches du facteur et Joseph a essayé de cacher ça, de protéger Marie, mais on n'est pas dupe.
Alors, vous dites plusieurs choses comme leçon de sagesse. On va peut-être y aller progressivement. La première chose que vous dites, c'est que une épreuve, un dépouillement n'est jamais une altération ou une dénaturation. Je comprends par là que une épreuve qui, on va dire, accompagnée par Dieu ou permise. Elle peut dépouiller profondément, mais normalement, elle n'altère pas ce que nous sommes, c'est-à-dire aussi le regard de Dieu sur nous et la possibilité d'alliance avec lui, c'est ça qu'il faut comprendre.
Nous avons toujours peur que Dieu nous prenne quelque chose. C'est quelque chose qui date de Genèse 3, c'est quelque chose qui date de la tentation de l'antique serpent qui nous présente Dieu comme un adversaire. Et c'est profondément ancré en nous. Et on se dit, Dieu va me prendre. Et beaucoup de nos crises sont beaucoup plus compliquées, beaucoup plus douloureuses qu'elles ne devraient l'être, parce qu'on se raidit contre Dieu, on se défend en se disant « Dieu ne m'arrache pas ça ». Voilà. Or, ce n'est pas du tout, évidemment, ce que Dieu fait. Il ne veut pas nous amputer, il ne veut pas nous détruire, il ne veut pas nous altérer. Comme je viens de donner l'exemple, quand la Vierge conçoit, il lui donne tout. Il fait d'elle la mère de Dieu. Elle est pleinement... dans l'accomplissement de sa vocation propre. Elle est comblée quand elle est enceinte de Dieu. Et pourtant, il la met dans une situation de pauvreté extrême. Elle attend que Joseph prenne la parole. Et son avenir dépend de la parole que donnera Joseph. Donc elle est dans une très grande pauvreté, on pourrait dire en termes modernes, dans une insécurité, c'est-à-dire dans une situation que instinctivement nous fuyons.
Donc si Dieu ne nous prend rien et qu'il nous...
Il nous donne tout.
Qu'il nous donne tout... quelle est la vraie question de Joseph ? Vous dites que ce n'est pas une question juridique, mais une question prophétique.
Exactement. C'est une question qui n'est pas juridique, en disant, doit-il appliquer les lois du Deutéronome qui correspondent aux actes de répudiation, etc. On pourrait en parler aussi longuement, mais je crois que c'est tout à fait hors de propos, parce qu'on cite ce Deutéronome 22 sur les lois de répudiation, mais il y a Deutéronome 24 qui nous dit que ces lois... Ça correspond à un homme qui se serait fatigué de sa femme. Alors, excusez-moi, c'est la parole de Dieu. Donc, ça veut dire que le mariage est largement consommé. Donc, il n'y a pas obligation pour un fiancé d'appliquer Deutéronome 22, parce que justement, ça s'adresse à un homme qui voudrait, étant fatigué de sa femme, la renvoyer. Donc, je ne crois pas du tout que c'est une question juridique, même si l'angle juridique en fait partie, puisque Joseph envisage la répudiation, donc il faut bien qu'il s'appuie sur la loi. Mais c'est une question prophétique, c'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu attend de moi ? Qu'est-ce qui est juste que je fasse ? Et là, il se dit, je suis le protecteur de Marie et de l'enfant à naître. Et la meilleure manière de les protéger n'est-elle pas d'attirer l'attention sur moi ? De les faire oublier. Et si je la renvoie sans donner de raison, alors je serai accusé d'avoir été injuste après, envers une femme que j'aurais mise enceinte.
Donc là, détourner l'attention, c'est...
C'est pour lui, de manière, je crois, de protéger Marie. C'est de lui qu'on va s'occuper, c'est de lui qu'on va rire, c'est sa réputation qui sera détruite. Et pendant ce temps-là, Marie ne sera pas au centre, pour le coup, des ragots, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit.
Alors, s'il s'agit de toutes les crises, on va dire, en millefeuille qui nous tombent sur la tête en ce moment, et puis au dire du pape François, c'est quand même un moment important, semble-t-il, de notre civilisation occidentale et pas que. Là, quelle est la leçon à tirer pour chacun d'entre nous? Vous dites, c'est où, la question c'est à se poser, c'est où Dieu me veut-il?
Exactement.
Au cœur de cette crise.
Exactement. Retrouvons l'esprit prophétique. Ayons l'audace de Joseph qui n'a pas peur d'être appauvri, mais qui cherche à la place que Dieu lui réserve. Voyez, je dirais même, où sont les saints? Rien que ça, avant même de traverser une crise, prenons conscience de cette question. Vous voyez, il n'y a pas de recette, jamais de répétition. Saint Ignace de Loyola, c'est un militaire. Que lui demande le bon Dieu? Quitte l'armée. Sainte Jeanne d'Arc, c'est une bergère. Que lui demande le bon Dieu? Prends la tête d'une armée. Vous voyez, il n'y a pas de règle. On ne peut pas se fier en disant ah « ben, il faut appliquer ça et puis je serai sûr de plaire au bon Dieu. Je vais appliquer la loi et tout ira bien. » Mais il n'y a qu'une seule loi, c'est d'être pleinement ce qu'on doit être. C'est la seule demande que nous fait le bon Dieu.
Allez, on va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver pour continuer ce parcours. Ce qui est beau avec vous, c'est qu'on se balade dans les Écritures comme si on y était. On va parler de la fuite en Égypte. C'est un autre épisode où Joseph a un ange aussi qui vient lui parler. Et vous aussi, enfin, à cette occasion, vous en tirez une leçon de sagesse qui peut nous servir à chacun d'entre nous.
Emmanuel Pella.
La Bible pour sortir de la crise, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, ce lundi matin, avec Dominique Joseph, pour ceux qui nous rejoindraient, qui est religieux de la famille Saint-Joseph, prêtre et professeur d'écriture sainte à l'Institut catholique de Toulouse. Et ce matin, donc, on parle des crises dans la vie de Saint-Joseph. Donc deuxième crise sur laquelle vous voulez que l'on s'arrête, c'est donc un autre passage dans l'évangile selon saint Matthieu, la fuite en Égypte. Donc pour ceux qui par hasard, mais je pense que là parmi nos auditeurs après 40 minutes d'émission, on a surtout ceux qui connaissent cet épisode. Si vous deviez commencer aussi par le resituer, peut-être en commençant justement par décrire au plus près, en tout cas ce que le texte en laisse deviner, dans quelle est l'humanité de Joseph dans cette circonstance avant que l'ange ne lui parle.
Oh, si on regarde par le petit bout de la lorgnette, c'est assez simple, d'ailleurs il n'y a que deux versets, hein. C'est que Hérode a un plan meurtrier pour se débarrasser de Jésus. Nous, en tant que lecteurs, nous l'avons su à cause de l'épisode des mages qui précède, c'est le début du chapitre 2, donc on sait tout ça, ce qui se passe au palais de Jérusalem, etc. Mais Joseph le sait-il ? On n'en sait rien. Est-ce que les mages ont parlé à la Sainte Famille en leur disant « Oh, on a parlé à Hérode, il nous a semblé louche, etc. » On ne sait pas. D'ailleurs, ce n'est pas sûr, puisque les mages eux-mêmes ne sont prévenus de rentrer par un autre chemin qu'au moment de leur départ.
Après quoi, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils prirent une autre route pour rentrer dans leur pays.
Voilà. Donc, est-ce qu'ils ont parlé à Joseph de ce qui se passe à Jérusalem ? On n'en sait rien. Et puis, quand l'ange lui dit de partir parce que l'enfant est menacé, il ne lui dit pas où aller. Partir, mais partir où ? Quelle est l'ampleur de la menace ? Est-ce que si je fais 20 km, ça suffira ? Ou est-ce qu'il faut que je parte à Tombouctou ? Enfin, quel est le danger concret qui menace ?
Lève-toi, prends avec toi l'enfant, lui dit l'ange et sa mère, et fuis en Égypte. C'est quand même la destination est claire.
Oui, c'est ça, mais l'Égypte c'est grand, et puis qu'est-ce que ça veut dire ? Traverser le désert ? Est-ce que c'est nécessaire pour fuir Hérode, qui est un sanguinaire, qui a une armée, mais enfin, pas une armée qui nécessite de traverser le désert, faut pas exagérer non plus, hein. Il recule devant rien, mais enfin, il peut pas aller très loin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est là que je dis, où est l'ampleur de la fuite ? Donc, Joseph, toutes les questions concrètes qu'on pourrait se poser comme question, il n'a pas de réponse. Et non seulement il n'a pas de réponse, mais alors qu'elle se pose, il ne les pose pas. Il ne les pose pas, c'est ça qui est mystérieux.
Alors, vous soulignez du coup quelque part un peu le silence de Joseph aussi, à vous comprendre, hein, en cette circonstance. Et puis, vous avez une autre expression, Joseph est prêt à tout. Oui. Ça dit quelque chose aussi de l'homme qu'il était, c'est-à-dire, vous précédez en disant, oui. C'est un homme qui travaillait dur et longtemps. Voilà, quand on était charpentier, on faisait pas les choses à moitié, on a bien compris. Donc quelque part, on se préparait à tout et en même temps, c'était à la mesure d'une forme d'abandon intérieur, c'est ça ?
C'est ça. C'est quelque chose qui est un art de vivre. Je crois qu'on aurait tous intérêt à s'interroger et à imiter saint Joseph sur cette question-là. Vous voyez, si vous voulez devenir, je sais pas quoi moi, vainqueur de Roland-Garros, vous allez forcer sur le tennis. Et vous allez prendre des méthodes qui vous rendent compétent, etc. Mais qu'est-ce que Dieu va demander ? On n'en sait rien. Notre imagination n'est d'aucun secours. On ne peut pas imaginer ce que Dieu nous demandera. D'ailleurs, la plupart du temps, si on savait où il nous amène, on partirait en courant, hein. Il se garde bien de nous le dire. Donc, la seule manière d'être prêt, c'est d'être prêt à tout. À tout ce que Dieu demande. Pas à n'importe quoi. À tout ce que Dieu demande. Sommes-nous vraiment prêts à tout ce que Dieu demande ? Et Joseph l'était, parce que vous voyez, quand il lui dit de partir, vous imaginez la scène si Joseph lui dit « Oh ben attends, j'ai pas de carriole ». Ou alors « Ah ben oui, mais ça fait 3 mois que la porte de l'atelier est cassée, si je m'en vais, n'importe qui peut rentrer, laisse-moi 48 heures pour réparer la serrure ».
Vous dites ça parce qu'il est aussi dit dans le récit de l'Annonciation, Marie, elle, a posé des questions.
Bien sûr, et n'importe qui, regardez tous les prophètes de l'Ancien Testament, quoi ce qu'ils ont discuté, je crois que le pire c'est Moïse, pendant une page ils discutent.
Donc là il faut entendre quelque part dans l'absence de questions de Joseph quelque chose.
Ben oui, il est prêt. Il est prêt et il ne s'intéresse pas à lui-même. Je ne dis pas que la question de Marie n'était pas légitime, au contraire, mais ça révèle que Marie a un tempérament très affirmé, une femme indépendante. Elle aurait pu aller voir Joseph pour poser des questions. Elle aurait pu aller voir le rabbin du village pour essayer de se faire orienter sur ce qu'il convient de répondre à l'ange, etc. Non, elle discute pour elle-même et des choses qui la concernent intimement. Comment cela va-t-il se faire ? Vous voyez, c'est un dialogue dans la foi, dans la confiance, mais c'est un dialogue. Avec Joseph, pas de dialogue. Pourquoi ? Ben parce qu'il est prêt. Et comment est-ce qu'il a pu se préparer à ce qu'il ne savait pas que Dieu allait lui demander, eh ben ça, c'est les choses que Saint Joseph nous enseigne. Dans le secret de son silence, il se passe beaucoup de choses. À son état d'esprit, il se passe beaucoup de choses.
Qu'est-ce qu'on peut y entendre avant que vous nous donniez la fine pointe de la leçon? C'est que, en fait, Joseph, il avait dit oui une bonne fois pour toutes. Il avait quelque part déjà donné sa vie à Marie, il avait compris qu'il était un peu dépassé, donc il savait qu'il...
Oui, si vous voulez, mais là, si vous me permettez, je crois que vous vous échappez sur le domaine spirituel, alors que la question qui se pose à Joseph est une question extrêmement concrète. Il faut organiser un voyage et partir en Égypte, vous voyez ? Et donc il ne s'attendait pas à être prêt à ça. Mais il se trouve qu'il était prêt à ça, puisque aussitôt, il prend la femme et l'enfant et il s'en va. Donc tout était disponible. Donc c'est vraiment dans la concrétude de notre disponibilité à l'Esprit-Saint que Saint Joseph nous interroge et nous remet en question. Et comme je disais, nous on aurait toujours des objections. J'ai pas de ticket pour le péage, ma voiture est trop vieille, elle tiendra pas le voyage. On aurait toujours des mauvaises discussions. Or Joseph était prêt. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je crois que, pour répondre quand même à votre question spirituelle, parce qu'elle elle est sérieuse, il faut dire, eh bien, Dieu me demande ce que je suis capable de lui donner. Et ça, c'est une règle magnifique que Saint Joseph nous enseigne. L'Esprit-Saint nous demande toujours ce qui est à portée de main. Dieu nous demande toujours notre possible. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire les choses à moitié. Ça veut dire que l'impossible, il le garde pour lui. Et donc, gardons pour nous nos objections. Vous voyez ? Saint Joseph n'avait pas de carriole, eh ben, il ira à pied. Et la question, c'est de dire, si Dieu me le demande, alors je peux le faire. Il n'y a pas à discuter. Je n'ai pas à m'imaginer comment j'aurais pu le faire mieux. Je n'ai pas à m'imaginer que Dieu aurait pu me le demander autrement ou à un autre temps. Mais simplement à dire, puisque Dieu me sollicite ici et maintenant, eh bien ici et maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire ce que Dieu me demande.
Alors vous soulignez aussi le contraste entre la pauvreté et la force en pareille circonstance. Si je vous ai bien compris, c'est que Joseph est à la fois, on va dire, très désarmé, hein, enfin, il peut pas faire grand-chose, et pour autant, la circonstance, comme dans la circonstance précédente, il a quelque part un pouvoir, mais enfin, tout oui, dépend de sa force.
Exactement. Et je crois qu'on peut lire cette position, ce contraste qui, encore une fois, est sublime et riche d'enseignements, dans le glissement qui existe dans les deux messages de l'ange entre le précédent de l'Annonciation à Joseph et celui-ci de la fuite en Égypte. Dans la première intervention, c'est « Ton épouse, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse ». Marie est définie dans son lien avec Joseph. L'enfant, c'est celui à qui tu donneras un nom, donc tu seras le père. L'enfant est défini dans sa relation à Saint Joseph. Et c'était ça la question, où est ma place ? Donc Dieu répond. Mais ici, alors qu'il a été confirmé, il est père de Jésus, il est mari de la Vierge.
Cette fois, lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère.
Voilà, l'enfant et sa mère. Elle n'est plus sa femme, elle est la mère. Il n'est plus son fils, il est l'enfant. Ce qui veut dire qu'il y a quelque part une distanciation, un appauvrissement, on pourrait dire. Il est mis à distance de Jésus et de Marie, et il se retrouve démuni, distant et pauvre, pauvre. Et pourtant, c'est à lui que la demande s'adresse. C'est à lui de protéger l'enfant et sa mère. C'est à lui de conduire l'enfant et sa mère jusqu'en Égypte. Donc tout dépend de lui. Aussi pauvre soit-il, quelque limité que soient ses moyens, tout dépend de lui, et il faut qu'il donne tout, et ce sera peu, et ce sera suffisant, un peu comme les 5 pains que Jésus demande qu'on lui offre pour nourrir la foule.
Alors on entend en creux la leçon de sagesse pour nous, mais si vous deviez la reformuler ou nous la formuler plus explicitement, qu'est-ce qu'on peut entendre à propos de Saint Joseph après avoir entendu dans le récit de l'Annonciation cette question que quelque part Dieu nous pose dans l'épreuve, c'est où Dieu me veut-il ? La question qu'on peut se poser. Là, quelle est la bonne question à se poser alors ?
Eh bien, je crois qu'il faut faire appel à sa mémoire. Et de nouveau, il y a un verset de l'Écriture, bon, on ne va pas en parler, ça nous amènerait trop loin. De nouveau, une citation d'Osée. Mais ce que je veux dire, c'est que voyons Joseph dans son abandon, dans sa pauvreté, il y a une richesse infinie et elle est double. C'est-à-dire qu'il a le souvenir, l'ange lui a déjà parlé, il lui a dit « Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous ». Et il lui donne, avec l'ordre du départ, une promesse de retour. d'Égypte, j'ai appelé mon fils. C'est quelque chose qui va se produire, c'est une prophétie qui va se réaliser. Ça veut
dire que Joseph le savait, enfin il l'avait en tête.
Voilà, donc il part riche d'une promesse. Mais quand c'est Dieu qui promet, on est quand même en confiance. Bon, et ensuite, riche d'une connaissance, l'enfant, c'est l'Emmanuel. Et donc la question n'est plus « Quelle route dois-je prendre pour aller en Égypte ?» mais de dire « Je vais décider quelle route je vais prendre pour aller en Égypte. » Et il n'y a pas de mauvaise route et il n'y a pas de bonne route pour aller en Égypte. Ce qui compte, c'est que je regarde Jésus comme Dieu avec nous. Ce qui compte, c'est que je découvre l'amitié de Dieu. Et dans nos crises, c'est pareil. Au lieu de se demander « Je vais à droite ou je vais à gauche ? Je fais ci ou je fais ça ?» Quelle route dois-je prendre ? Ben, il faut discerner, il ne faut pas faire les choses à la légère, et etc. Je ne vais pas dire que le discernement n'existe pas, mais il n'y a pas de bon discernement si ce n'est sur l'horizon de l'amitié confiante avec Jésus. L'obsession de Joseph, c'est l'accomplissement du dessein divin, la réalisation de la prophétie par amitié pour Dieu. Et on ne devrait avoir qu'une seule obsession, c'est l'amitié pour le Sacré-Cœur, c'est la consolation pour le Sacré-Cœur. Et à partir de là, on ne se trompe pas. Et quand bien même ferait-on des erreurs, eh bien, Dieu est le maître de l'impossible, il ne refuse rien à ses amis.
Eh bien, merci Dominique Joseph de nous avoir conduits pour ce premier éclairage de cette conférence biblique sur les crises dans la vie de Saint Joseph à l'occasion de cette grande série annuelle qui est proposée donc, par la faculté de théologie de l'Institut catholique de Toulouse sur le thème « Crise salutaire, point d'interrogation, sortir, grandir d'une traversée à risque » avec évidemment les écritures en ligne de mire. On pourrait, si je le résume avec mes mots, dans l'Annonciation, enfin à travers la figure de Saint Joseph et ces deux récits que vous avez, sur lesquels on s'est arrêté, l'Annonciation et la fuite en Égypte, être ajusté à la volonté de Dieu, où me veut-il ? Et la meilleure manière de le savoir ou de répondre à cette question, c'est donc de vivre dans l'amitié avec le Christ. Merci beaucoup.
Avec joie.
À la technique, Christophe Aubry, vous pouvez écouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.